C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Disons qu'on a eu de la difficulté à suivre cette semaine le message de la santé publique concernant la reprise des activités sportives. Le masque, pas de masque, civil, scolaire. Le docteur Boileau nous donne une entrevue. Par la suite, le ministère de la Santé ne nous dit pas tout à fait ça. Alors, on va essayer de comprendre. Je sais qu'il y a beaucoup de dirigeants d'associations de sport qui écoutent ce matin. Il est avec nous, Luc Boileau, donc directeur national de la santé publique. Docteur Boileau, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
C'est pas une semaine facile pour comprendre les messages.
C'est pas une semaine facile pour comprendre les messages, mais c'est pas une semaine facile pour les écrire. C'est que ce qui arrive, c'est que quand on suggère des mesures et que ça se transporte dans des arrêtés avec des règles, ça c'est permis, ça c'est pas permis, ça devient vraiment compliqué. Alors, on a voulu simplifier ça. En fait, c'est après votre entrevue, franchement, M. Arcand, faut que je vous donne ça, là. Ça et bien d'autres choses, ça nous a aidé à se dire là, on va simplifier ça, puis on l'a mis comme une recommandation. Tu sais, c'est pas une obligation, puis on va avoir des contraventions si on ne porte pas, etc. C'est une recommandation dans le contexte de la pandémie où ça circule encore beaucoup. Sachons se protéger les autres et nos familles.
Alors, la recommandation, c'est de porter le masque. Donc, vous recommandez de porter le masque pour les activités sportives. Mais c'est pas obligatoire.
Exactement. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Et je comprends qu'il y en a qui vont dire, ben là, c'est pas obligatoire, moi, j'aurai pas de contravention, je le porterai pas. Mais sachons reconnaître qu'il y a encore une forte contagion et que c'est mieux de le porter que de pas le porter. Mais il y a des situations, et vous le savez, puis les auditeurs le savent bien, où là, ça peut être vraiment plus difficile. Si on fait un sport très intense, on joue au hockey, surtout quand on va faire des compétitions, ça s'en vient, parce qu'on est sensible à ce mouvement que vous signaliez. Mais c'est ça, essayons de le porter le plus possible, et on va laisser ça au jugement de chacun, mais j'espère que chacun va faire un jugement pour lui et pour l'autre.
Il y a un vieux dicton qui dit que ceux qui ont du jugement en ont et que ceux qui en ont pas en auront pas de toute façon. Alors, c'est aussi bien de se fier sur le jugement de la majorité pour être sûr que la règle soit suivie, qu'on n'a pas besoin de se faire prendre dans le micro-détail et par la main, là.
Exactement, puis vous le dites bien, puis c'est là où est-ce que on franchissait une ligne qui était devenue difficile à tenir, puis je le reconnaissais, puis écoutez, c'était pas mon intention, sûrement pas, là, mais quand vous nous avez ramené ça au visage, je pense que ça a été tout à fait correct, puis la réaction a été correcte partout, là. Je veux dire, on n'a pas dû se battre avec le gouvernement pour ça, c'est devenu, puis même, il le comprenait aisément, alors c'est plus dans ces propos-là qu'il faut garder le sens du gros bon sens, comme vous l'encouragez. Mais gardons le gros bon sens, puis gardons le masque au visage, puis le masque bien placé, là, pas juste en dessous du nez, là, le masque bien placé à tout moment. Puis s'il y a des situations qui le permettent, là, on peut l'enlever. Regardez, là, des gens qui jouent au tennis, on me disait, ben finalement, les gens qui jouent au tennis vont avoir une contravention s'ils n'ont pas le masque. Mais voyons donc, on ne peut pas donner des contraventions à des gens qui jouent au tennis. Par contre, quand ils ont fini de jouer au tennis, ben ils remettent le masque, c'est correct, là, mais ils sont à distance de, je sais pas, là, combien de mètres ou combien de pieds. Fait que ça, ça va dans le sens du bon jugement.
J'allais dire, quand tu vas au restaurant, tu enlèves ton masque pour manger, puis tu le remets quand tu te déplaces. C'est pas si compliqué que ça, là. Je veux dire, ça me semble relativement facile à comprendre. Les gyms, là, c'est quoi la directive exactement?
Les gyms, la directive en ce moment, c'est d'abord qu'ils ouvrent, là, et je pense que ça va faire du bien à tout le monde et à eux autres aussi, c'est d'avoir le passeport vaccinal obligatoire et c'est de porter le masque. Encore là, dans les gyms, il peut y arriver, c'est pas moi, écoutez, je vais le dire comme ça, là, c'est pas moi qui va aller dans le fond du gym, quelqu'un qui est en train de courir sur un tapis roulant, puis qui a chaud, puis qui enlève son masque, qui est seul dans le coin, j'irai pas y donner une contravention, là, je veux dire, faut servir de sa tête. Mais c'est de faire en sorte qu'on porte le masque le plus souvent possible. Dans les gyms, c'est pas toujours des efforts grandioses qui sont faits, puis c'est correct, mais il y en a qui en font des gros, sont tout en soir, mais c'est de se mettre à distance, puis s'il faut enlever le masque parce qu'on se sent très inconforté par ça, ben c'est de s'arranger pour qu'il n'y ait pas quelqu'un autour de soi ou à proximité, ou d'avoir, comme ils le font dans la plupart des plexiglas, qui assure une certaine distanciation, en tout cas un risque diminué. Fait que c'est dans cet esprit-là. Mais dans les gyms, c'est resté obligatoire. Mais comme je vous dis, là, je pense qu'on n'enverra pas des polices pour aller checker là, qui court, puis qui le porte, puis qui le porte pas. Mais c'est encore là. Ça, je l'ai pas changé. On garde ça obligatoire. Ça va évoluer, M. Arcan, ça va évoluer parce que la pandémie va progresser, espérons-le, du bon côté, mais elle va évoluer mieux et plus vite si tout le monde, on se donne une occasion de comprendre que c'est pas juste les règles qu'il faut suivre, c'est le bon jugement de dire on se protège puis on protège les autres parce que ça circule encore énormément.
Quand vous dites évoluer, là, je pense à la dernière fois où c'était le masque pour les déplacements d'un appareil à l'autre, par exemple, puis de pouvoir faire l'exercice sans le masque. C'est un peu ça, la prochaine étape?
Ben c'est ça. Oui, là, dans le sens que, mais c'est dans le sens que éventuellement, on n'aura probablement pas besoin tout
du
le
masque
monde de porter des, c'est ça, de masques partout. C'est comme vous parliez des restaurants. Je sais pas pour faire une règle de dire quand on mange une soupe, on finit, on remet le masque, puis après ça, on mange autre. Tu sais, à un moment donné,
tombez pas là-dedans, là.
Ben non, ça. non, c'est parce que vous allez m'inviter trop souvent.
Non, mais je pense que non, mais c'est ça qui arrive, c'est que quand on est dans le détail, on, c'est là qu'on comprend plus rien, puis c'est là qu'on se perd, puis qu'on se contredit. Je veux revenir sur le mouvement là. On veut jouer là. Vous êtes conscient de ça. Puis là, c'est pas juste on veut pratiquer, puis on veut pouvoir se faire des passes. Là, on veut être capable de jouer. Les matchs reprennent dans la Ligue d'hockey junior majeure du Québec. Êtes-vous capable ce matin? Bon, je sais que vous comprenez cette demande-là, là, mais de donner un horizon pour la reprise vraiment des matchs comme tels, des compétitions.
Je peux pas vous donner un horizon exact, là, Monsieur Arcan, parce que d'abord, je dois faire ces recommandations-là au gouvernement, au ministre, au premier ministre. Et donc, je préfère traverser ces étapes-là, mais on l'a devant nous. On sait qu'on veut se rendre là rapidement. Et tout ça va... Écoutez, quand on parle de ces mouvements-là, on est hyper sensible à ça, on a beaucoup de pression. Moi, je joue pas au hockey, là, mais j'ai eu l'impression de me faire entrer dans la bande une couple de fois là, dans les derniers jours. Puis c'est correct, là, je l'accepte fort bien, mais faut juste se donner un petit peu de temps. Et en ce moment, M. Arcan, la semaine qui vient et l'autre semaine d'après sont critiques pour voir est-ce que les hospitalisations vont continuer à descendre ou vont malheureusement remonter ou se stabiliser serait déjà pas pire, mais mettons pas remonter. Et ça va aider pour tout le déconfinement beaucoup. Donc c'est dans un horizon assez proche.
Je vous écoute, je comprends que c'est assez proche, mais ça arrive souvent, pas vous là, mais puis votre prédécesseur puis M. Legault nous disait ça, le mois de janvier va être critique, les deux dernières de janvier. C'est que quand on dit ça aux gens que les deux prochaines sont critiques, puis qu'après ça, il se passe rien, puis qu'on se refait dire que oui, mais ça va être les deux autres qui vont être critiques. Vous n'avez pas peur que le message s'effiloche un peu?
Oui, je suis très conscient de cela. Là, on peut pas tenir tout le monde en disant, regardez, là, ça achève, finalement, ça achève pas. Là, comme Woody Allen le disait, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Là. Donc, il faut, à un moment donné, il faut qu'on soit réaliste et puis qu'on comprenne ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe et ce qui se désire. Puis je crois que les gens ont fait beaucoup d'efforts, mais vraiment beaucoup d'efforts. Regardez, les résultats sont très bons, mais c'est sûr que on n'est pas encore prêt à lever tout parce qu'il y a encore, écoutez, on est encore à 2600 lits là, qui sont utilisés pour des patients de COVID. C'est beaucoup, un peu moins de 200 lits aux soins intensifs. Ça reste fragile. Donc, puis les gens de ce côté-là sont épuisés. Vous le savez, il y a des gens qui n'ont pas accès à tous les services qu'ils souhaiteraient. Puis on peut avoir d'autres problèmes avec les cancers, avec d'autres maladies. Donc, faut garder un équilibre dans tout ça. Mais soyez assurés que toutes les énergies sont mises pour qu'on fasse le bon calcul, mais je continue à prétendre que si les deux prochaines semaines vont bien, ça va bien aller pour longtemps.
Et qu'on va pouvoir organiser des matchs.
Et qu'on va pouvoir non seulement organiser les matchs, d'aller les voir, de s'amuser, puis de revivre, comme tout le monde le souhaite, avec encore là une certaine gradation. Là, on ne pourra pas tout lever dans deux semaines, mais je pense que on est sur une bonne route en ce moment, continuons à l'être, puis allons chercher la dose de rappel. Ce serait tellement plus facile avec ça, mais je peux pas le dire plus, là, puis je vois bien que les gens ne vont pas tous la chercher. Là, j'ai pas l'influence que je souhaiterais, puis mais ça n'empêche pas qu'il faut que je le répète, parce que c'est bon pour eux autres, c'est bon pour tout le monde, mais c'est surtout bon pour eux autres.
Merci, Dr Boileau. Bonne journée.
Merci, M. Arcan. Bonne journée.
Dr. Luc Boileau, qui est le directeur national de la santé publique par intérim. Des centaines et des centaines de milliers de Québécois se cherchent un professionnel de la santé. On dit souvent un médecin de famille, mais ça peut être aussi un autre professionnel. Le ministre Christian Dubé a déposé un projet de loi 11 qui vise justement à améliorer l'offre de services. Et j'ajouterais également que ça polarise beaucoup. D'un côté, le ministre dit « je veux des données, je veux savoir que font les médecins, quelles sont les plages horaires disponibles et comment maximiser le nombre de patients pris en charge ». Hier, vous avez entendu le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec dire que c'était une chasse aux sorcières. Ce qui est intéressant, c'est autant le président du syndicat que le ministre donnent l'exemple d'une expérience vécue dans le Bas-Saint-Laurent, justement pour permettre à des patients orphelins de trouver un professionnel de la santé. Alors, on s'est dit, quelle est la recette? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Et de voir le syndicat puis le ministre donner le même exemple, il y a peut-être quelque chose à tirer de ça. Docteur Éric Lavoie est médecin de famille et chef du département régional de médecine générale au 6 du Bas-Saint-Laurent. Docteur Lavoie, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Alors, parlez-moi de votre expérience. C'est quoi le projet que vous avez mis sur pied puis ça fonctionne comment?
Alors, c'est un guichet d'accès. On appelle ça le guichet d'accès première ligne, le GAP. On fournit un numéro de téléphone aux patients qui n'ont pas de médecin de famille, puis on leur demande d'appeler à ce guichet-là s'ils expriment un besoin de santé dans le temps. Puis, une fois qu'ils appellent, on évalue leur demande, puis on les aiguille au bon professionnel. Parfois, c'est un médecin, et parfois, ce n'est pas un médecin, c'est un autre professionnel, ou c'est des conseils, ou une autre orientation. Si bien qu'au fil du temps, ce qu'on se rend compte, c'est qu'une fois sur deux, le citoyen qui appelle dans son esprit, là, je pense, il veut faire régler son problème par un médecin de famille, puis finalement, une fois sur deux, on réussit à le régler autrement. Fait qu'on sauve la moitié des consultations.
Une fois sur deux, vous dites?
Oui, oui. Alors,
mais ça veut dire que vous référez le patient, je ne sais pas, à un pharmacien, à une infirmière ou.
Exactement. Alors, on a positionné le médecin de famille depuis longtemps là, comme une porte d'entrée, un chef d'orchestre qui est à même d'avoir accès à une panoplie de services. Faut peut-être se re-questionner sur cette porte d'entrée-là parce que finalement, quand on lui assigne cette fonction-là, il fait pas son travail de médecin de famille ou de médecin tout court, là. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, en aidant, en accompagnant les citoyens dans leur recherche de soins, le besoin de médecin de famille se fait pour la moitié des cas, puis dans l'autre moitié, on réussit à régler d'une autre façon.
Mais est-ce que les patients qui veulent voir et ont besoin de voir un médecin, est-ce que ça veut dire que ce médecin-là devient leur médecin de famille?
En fait, ce qu'on observe, c'est que les médecins qui nous fournissent des offres voient les patients, puis ce qu'on observe, c'est une fois sur 10 à peu près, là, il y a une inscription qui se fait. 9 fois sur 10, il n'y a pas d'inscription. Puis, à ce moment-là, ça repose sur le guichet d'accès des médecins de famille. Là, l'inventaire de patients, là, les 800 000 ou les 900 000 qu'on parle, là. Chez nous, au Bas-Saint-Laurent, il y a une moyenne d'à peu près 400 jours pour être inscrit. Là. Fait que les patients, ils vivent leurs 400 jours de façon un peu plus confortable.
OK. Comment vous avez recruté les professionnels? Comment vous avez convaincu donc des pharmaciens, infirmières et autres professionnels là, de vous donner de la disponibilité?
C'est déjà dans leur fonction. Hein? Puis moi, si je vois un patient puis je pense qu'il a besoin de voir un pharmacien ou une infirmière, je fais faire une référence. Alors, qu'il passe par moi ou qu'il passe par un guichet, il y a la même référence. Alors, c'est pas plus ou moins de travail, c'est le même service, sauf que on se trouve à alléger la fonction de triage que le médecin pouvait faire.
OK, mais c'est comme un guichet, dans le fond, c'est comme un clic santé?
Oui, ça peut ressembler à un clic santé, mais c'est un service personnalisé avec des professionnels qui sont dédiés. C'est-à-dire qu'il y a une agente là, administrative qui recueille les données de la personne. Puis, au besoin, il y a une infirmière qui évalue son besoin. Les entrevues sont à peu près 10 à 12 minutes pour la secrétaire, puis à peu près presque 20 minutes pour l'infirmière. Alors, c'est vraiment là, une évaluation qui se fait. La clé, c'est de bien aiguiller pour conserver le lien de confiance là, que le patient ou le citoyen peut avoir en appelant. Puis, conserver le lien de confiance aussi. Quand on fait une référence à un professionnel, là, le professionnel sait qu'il a bien été évalué, là.
OK. Et l'attente pour ce rendez-vous avec le professionnel n'est pas trop long non plus?
Ben, c'est ça. Il y a deux sortes de délais. Il y a le délai pour capter l'appel. Ça veut dire quand le patient appelle, là, la clé là-dedans, c'est de le répondre rapidement. Alors, dans la journée même, nous, on est ouvert là, de 8h à 18h. Puis, sinon, il y a un répondeur. Alors, dans l'espace de 24 heures, là, à moins que vous appeliez le jour, vous êtes répondu tout de suite. Sinon, il y a un petit délai là, le soir, la nuit, puis le lendemain matin, on fait des retours d'appel. Ça, c'est pour capter l'appel, on capte le besoin, puis ça, c'est très important de le faire rapidement. Le service aux bons professionnels, ça peut s'échelonner sur quelques jours, la journée même, ou jusqu'à 2 semaines. Quand une personne, par exemple, a un formulaire à faire remplir, le formulaire, c'est moins important que, par exemple, se donner un coup de marteau sur un pouce. Là. Fait que on agit en fonction de l'urgence du cas.
OK. Je vous donne un exemple là, qu'on me soumet assez souvent par des courriels. Là. Quelqu'un qui a fait renouveler ses ordonnances par le pharmacien, mais là, il n'est pas capable d'avoir son médecin. Est-ce qu'il appelle, puis vous y trouvez une façon de pouvoir donc renouveler ses médicaments?
Ouais. Le deal qu'on a avec les pharmaciens, ben, premièrement, les appels pour les pharmaciens, là, c'est à peu près un appel sur 6. C'est beaucoup d'appels là, pour les ordonnances de médicaments. Les pharmaciens, avec le projet de loi 31, là, la loi sur les pharmacies, ont eu une extension là, de leur capacité d'agir. Puis, ils nous aident beaucoup là-dedans, fait qu'ils prolongent les médicaments. Ce qu'on veut avoir avec une entente avec les pharmaciens, c'est quand le patient devient instable ou qu'il développe un symptôme ou si le pharmacien fait des prises de sang et se rend compte que les prises de sang sont pas normales, à ce moment-là, ça déclenche une demande de rendez-vous auprès du médecin. Fait que dans le fond, quand tout est beau puis la mer est calme, on laisse ça aller, le bateau avance tout seul. Puis quand il commence à avoir des vagues, là, le médecin intervient.
OK. Là, vous êtes cité en exemple par le syndicat des médecins, puis par le ministre, qui pourtant ne s'entendent pas pantoute sur le projet de loi 11. Le ministre dit, moi, je vais aller chercher de l'info, je veux obtenir des données de la Régie d'assurance maladie pour voir quels sont les médecins qui travaillent à temps partiel, quelles sont les plages horaires disponibles. Le syndicat dit, c'est une chasse aux sorcières. Là, vous allez témoigner, vous, en commission parlementaire?
Ben, je vais témoigner cet après-midi, là.
OK, vous allez leur dire quoi?
Mais dans le fond, pourquoi je suis capable de vous parler ce matin, c'est que moi-même, comme chef de département régional, là, j'ai accès à des données. Hein? Je suis très respectueux de ces données-là et de la façon de les obtenir. Puis, je pense que les médecins du territoire me font confiance sur la gestion de ces données-là. Et puis, sans ces données-là, là, on n'aurait pas pu faire le projet. Je pourrais pas vous parler ce matin. On pourrait pas constater qu'il y a 50% d'orientation qui se fait pas vers un médecin. La donnée, c'est important en gestion pour évaluer l'offre et la demande. On observe ça à différents niveaux en gestion, là. Et puis, il s'agit de garder un bon climat. Puis, finalement, on fait une bonne gestion. Puis, on est transparent avec nos médecins. On leur montre les données. On leur montre là où on est rendu. Puis, on n'abuse pas de ces données-là.
Mais donnez-moi un exemple que je comprenne, parce que les données que vous avez, là, ça n'a pas pris une loi pour les obtenir?
Non, on a un accès à un certain nombre de données quand on est dans le rôle que j'occupe. Là.
Okay.
On a différents rapports qui nous sont fournis, qui viennent de la facturation médicale. Là. C'est la RAMQ qui nous transmet des données. Les données de la RAMQ ont toujours un décalage là, dans le temps. C'est pas des données le jour. Là. Il y a quelques mois de décalage, sauf que c'est quand même des bons indicateurs. Alors moi, si on me demande quelle est la force de travail des médecins au Bas-Saint-Laurent, je suis capable de vous le dire. Je suis capable de vous dire ils font tant de rendez-vous dans une année. Puis après ça, c'est de voir c'est quoi le comportement des citoyens qui vont demander des services. Le comportement des citoyens, on le connaissait à peu près, mais là, on le connaît de plus en plus. Fait que on est capable de faire une adéquation demande du citoyen versus offre du professionnel de la santé.
Puis ça veut dire que quoi, comme vous connaissez l'activité, par exemple, de vos médecins, vous êtes capable de leur dire. Puis là, comme vous dites, c'est un lien de confiance, puis un climat que vous établissez, mais y a-t-il moyen d'ouvrir un peu plus de plages? Êtes-vous capable, collectivement, d'être plus disponible, des trucs comme ça?
C'est surtout d'utiliser les plages de façon différente. Il y a toutes sortes de stratégies là, pour utiliser les plages de façon différente. Moi, c'est le deal que j'avais avec les médecins du Bas-Saint-Laurent, c'est on ne vous demande pas de travailler plus. On va demander de donner une petite place aux patients orphelins, puis c'est de l'ordre de quelques pourcentages là, de plages dans leur booking. Puis finalement, on leur dit aussi, écoutez, là, nous, on va gérer la pertinence des appels. On vous demande, en contrepartie aussi à l'interne, de faire une petite place et de voir la pertinence interne de vos organisations pour voir comment dégager ce qui est nécessaire pour les patients orphelins.
Est-ce que vous avez senti depuis l'implantation de ce projet une baisse de la fréquentation, par exemple, des salles d'urgence?
En fait, il y a eu un impact, mais l'impact sur les salles d'urgence, il est difficile à discriminer parce qu'il y a eu toutes sortes de facteurs qui ont joué là-dessus. Entre autres, il y a eu la COVID, là. Puis, lors de la COVID, dans la première année, il y a eu 1 million de consultations de moins au Québec dans les urgences, vous le savez, là. Fait que je suis pas sûr que c'était attribuable au guichet, mais on observe effectivement qu'il y a si ces patients-là n'avaient pas appelé au guichet, ils seraient là à l'urgence. C'est leur seule porte de sortie, les orphelins, actuellement. Fait que là, nous, on leur offre une alternative. Au lieu de se déplacer et d'attendre des heures à l'urgence, ils appellent au GAP.
Puis vous êtes les seuls à faire ça au Québec actuellement?
Je dirais qu'il y a quelques régions, là. Ça fait, nous, on a commencé au printemps 2020, puis on a consolidé ça à l'automne 2020. Puis depuis ce temps-là, on a présenté le modèle à différents, mes collègues chefs de DRMG. Puis finalement, il y en a quelques-uns qui ont commencé à l'implanter. C'est un mouvement qui est en marche. Et puis, il y en a quelques-uns qui l'expérimentent de différentes façons. Mais nous, on a la plus grande ancienneté avec les résultats probants qu'on a.
À la fin de votre témoignage, qui va vous applaudir, le ministre ou le président du syndicat?
Les patients.
C'est une maudite bonne réponse. Merci beaucoup, Dr. Lavoie.
Au plaisir, M. Arcand.
Au revoir. Bonne journée. Dr. Éric Lavoie, médecin de famille, chef du département régional de médecine générale au CIS du Bas-Saint-Laurent. C'est intéressant parce que les deux le donnent en exemple. La formule est relativement simple à comprendre. Vous êtes patient orphelin, vous n'avez pas de médecin, vous avez besoin d'un professionnel. Vous appelez un numéro, on détermine lequel vous devez voir. Est-ce que c'est un pharmacien? Est-ce que c'est une infirmière? Un autre type d'intervention, d'intervenant? Puis on vous envoie. Ce qui fait que les médecins sont peut-être moins surchargés, voient vraiment les cas qui s'adressent à eux. Mais surtout que le patient a obtenu le service dans un délai qui est plus raisonnable que d'attendre le fameux guichet là, pour le médecin de famille. Mais vraiment un exemple intéressant. Est-ce qu'on peut l'appliquer ailleurs? Est-ce qu'on va le décliner partout? Puis là, ça va être toujours la même chose sur le plan du projet de loi. Ça prend des données, mais jusqu'où on va dans les données? Puis comment on établit ça? Mais au moins, tu dis, il y a du monde qui travaille sur des solutions qui semblent, en tout cas, donner des résultats.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine. L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Très bien, la députée Marie Montpetit siège dorénavant comme indépendante pour représenter la circonscription de Maurice Richard. On sait qu'elle a été exclue du caucus du Parti libéral l'automne dernier. Il y avait eu à ce moment-là des allégations la visant de harcèlement psychologique, d'intimidation. Elle est avec nous ce matin. Madame Montpetit, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Donc, si on remonte un peu dans le temps, vous avez été exclu par la chef pour, en fait, après ces allégations de harcèlement psychologique, d'intimidation. Vous dites qu'il n'y a aucune plainte comme telle qui a été déposée contre vous.
En fait, c'est l'Assemblée nationale qui a confirmé à 3 reprises, dont une la veille de la rentrée parlementaire, là, qu'il n'y a pas de plainte qui a été déposée à l'Assemblée nationale envers moi. Donc, c'est un grand soulagement là, suite à toute cette tourmente là, qu'il y a eu à l'automne.
OK, mais qu'est-ce que votre chef, Mme Anglade, vous a dit? Je vous fais venir dans mon bureau, j'ai des allégations de harcèlement psychologique, intimidation. Elle n'a pas pris ça dans le vent. Là. Il y avait quand même des gens, j'imagine, qui avaient signalé des choses.
Ben écoutez, moi je n'ai jamais été rencontrée par Madame Anglade. Puis je l'ai demandé. J'ai lu la même chose que vous dans les journaux. J'en sais pas plus que ça. Quand ces informations-là sont sorties dans les médias, moi j'ai demandé immédiatement justement à être rencontrée, à être informée des faits et surtout à avoir une enquête là, neutre, indépendante pour faire la lumière sur toute cette question-là. Je vais faire ma pleine collaboration. Je n'ai jamais eu de retour du cabinet de la chef du Parti libéral du Québec. C'est pour ça que je me suis tournée vers l'Assemblée nationale, là, qui a un processus. Et ils m'ont confirmé à plusieurs reprises, comme je vous dis, qu'il n'y avait pas de plainte qui avait été déposée.
Là. OK. Il n'y a personne qui vous a dit, voici, on vous reproche A, B, C, il est arrivé tel événement, telle attitude, tel comportement. Jamais.
Je n'ai jamais été rencontrée concernant quelque allégation de harcèlement psychologique ou d'intimidation. Okay. À aucun moment, j'ai été rencontrée pour ça.
Sauf erreur, vous avez soutenu Mme Anglade dans la course au leadership.
Absolument.
Comment vous expliquez que celle que vous avez soutenue n'a même pas pris le téléphone pour vous appeler, pour vous confronter à certaines allégations qu'elle aurait eues entre les mains?
Je ne peux pas l'expliquer. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le bureau de la chef. Comme je vous dis, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai jamais fait de harcèlement psychologique. J'ai demandé une enquête, j'ai demandé des explications. Je n'en ai pas eu. Je n'ai pas eu de réponse à cet effet-là. Mais je suis soulagée de pouvoir tourner la page sur cette question-là, mais je ne peux pas répondre pour Mme Anglade.
Avez-vous déjà crié après des employés? Avez-vous déjà harcelé? Est-ce qu'il y a des gens qui ont démissionné? Avez-vous congédié? Y a-t-il du monde qui vous haït, qui ont travaillé autour de vous?
Moi, j'ai toujours fait preuve de respect envers mes collaborateurs, envers mes employés. Je l'ai dit bien, j'ai la même équipe. J'ai la chance d'ailleurs d'avoir assez peu de roulement, pour ne pas dire pas de roulement du tout dans mon bureau de circonscription. J'ai une équipe qui est avec moi depuis les tout débuts de mon mandat, c'est-à-dire depuis 8 ans. C'est devenu une deuxième famille, même, je vous dirais. Mais j'ai travaillé avec des centaines de personnes dans les dernières années, donc comme ministre, comme député, comme porte-parole. Puis je l'ai toujours dit, s'il y a des gens que j'ai heurtés, moi, j'ai aucun problème à m'excuser. Je suis quelqu'un d'extrêmement parlable dans la vie. Mais je fais preuve du plus grand respect. C'est important. Ça va vite en politique, là, mais c'est important pour moi d'avoir une dynamique qui est cordiale, qui est respectueuse. Hein.
Mais vous entendez les mêmes choses que moi, là. J'ai pas rêvé ça, là. Les rumeurs, Marie Montpetit pète sa coche, Marie Montpetit engueule le monde, Marie Montpetit est pas fine, puis elle crie, puis elle traite les gens avec mépris. Moi, j'ai entendu ça, là. Demandez-moi pas des noms. Mais tu sais, l'espèce de bruit populaire, c'est ça, puis c'est ça qui s'est probablement rendu à Mme Anglade. Ce que vous me dites que ça tient pas la route.
Ben, j'ai lu les mêmes choses que vous dans les journaux. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai aussi lu des officiers du Parti libéral, dont l'ancien chef par intérim du PLQ, le président du caucus actuel, le leader, la WIP, qui ont confirmé le contraire, qui ont dit non, on ne nous a jamais rapporté ce genre d'événement-là. Mais comme je dis, je suis pas parfaite, là. Il y a personne qui est parfait dans la vie. Moi, je le suis pas, ça je peux vous le dire. Mais je fais du mieux que je peux pour avoir une belle dynamique. Mais ça fait 8 ans que je suis élue. J'ai une réputation, je pense, qui a toujours été excellente. Il y a eu ça qui est sorti, effectivement, mais j'ai une très bonne collaboration, que ce soit avec les employés, que ce soit avec les députés aussi des autres formations politiques.
Là. Est-ce que je comprends que votre carrière politique, en tout cas, cette partie-là va prendre fin avec les prochaines élections? Vous ne serez pas candidate libérale, serez-vous candidate indépendante?
J'en ai aucune idée à ce stade-ci, pour être bien transparente avec vous. C'est pas une décision que je pouvais prendre avant de clarifier justement le fait qu'il n'y avait pas de plainte. Maintenant que cette question-là, elle est vraiment clarifiée, là, je suis revenue à l'Assemblée nationale, je vais faire mon travail de député, puis je vais faire cette réflexion-là. L'élection est dans 8 mois, c'est encore assez long, mais ce que je peux vous dire, c'est que je termine mon mandat, ça c'est certain. J'adore ce que je fais, c'est un grand privilège de député, c'est un grand privilège d'être au service des citoyens. Je n'ai pas perdu cette passion-là 8 ans plus tard, mais quand j'aurai pris cette décision-là, je vais la communiquer publiquement rapidement. Là.
Merci, bonne journée.
Merci à vous, bonne journée.
Marie Montpetit, députée indépendante de Maurice Richard.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Louis-François Marcotte reprend le micro, la caméra, puis redonne des conseils à des restaurateurs qui en ont besoin. C'est la deuxième saison d'aide demandée qui va être disponible mardi prochain, le 8 février, dans le volet Véro.tv, d'ici tout.tv, extra. C'est bien intéressant, j'ai écouté 2 épisodes hier. Louis-François, bonjour.
Salut.
D'abord, je m'excuse du délai, on a été un peu bousculés ce matin. Mais
ça, écoute, en fait, là, je connais toutes les règles sanitaires, oui, avec M. Boileau, pour qu'il y ait tout est clair pour moi.
Parfait. Au moins, on peut être utile. Mais sérieusement, c'est vraiment intéressant parce que, d'abord, c'est différents types de restaurants. Cette nouvelle saison, il y a un restaurant qui a besoin de retrouver sa voie à Saint-Jean. T'as une cantine à Trois-Rivières. C'est-tu quoi? Quand quelqu'un écoute ça, on se rend compte à quel point c'est compliqué la restauration pour des gens qui s'y lancent puis qui ont peut-être pas l'expérience requise.
Ben exactement. Puis tu sais, la restauration de l'extérieur, c'est souvent un modèle d'affaires ou un milieu très excitant, très beau, parce que c'est ce qu'on tente de faire miroiter. Tu sais, les gens viennent dans les restaurants pour du plaisir, un bon moment. Mais rouler un restaurant, c'est assez complexe. Puis c'est pas, tu sais, être restaurateur, il n'y a pas de cours à l'école, il n'y a pas un bac pour être restaurateur dans la vie. Fait que l'expérience rentre en bout de ligne pour rouler tout ça correctement, tu sais.
Mais quand tu donnes des conseils, tu sais, au début, je me suis dit, bon, il va leur donner des conseils, comment préparer le menu, réduire le menu, l'organisation. Mais là, je me rends compte que ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que t'as devant toi des caractères, là, je pense à la mère et son fils. Oui. T'auras beau avoir le plus beau menu puis la plus belle cuisine, ça se peut que ça marche pas.
Mais t'as beaucoup d'humains, tu sais. C'est comme dans tout. Y a l'humain est hyper important. Puis ça prend du temps à rentrer dans l'intimité de ces gens-là parce que c'est des. Tu sais, c'est une business, tu veux pas montrer tes chiffres tout de suite, tu veux, c'est qui le gars qui veut rentrer en intervention chez nous? Tu sais, dans mon cas, je rentre là, puis avant de créer un lien avec ces gens-là, ben, faut que tu passes du temps, faut que l'humain prenne la place, pour qu'il me fasse confiance, puis qu'il voit que, ah, ben, finalement, c'est pertinent ce que j'amène, puis qu'il voit une différence dans l'intervention, puis comme tu dis, c'est pas juste faire des menus, c'est, tu sais, l'interaction entre la mère puis le fils est super importante. Si ça saute entre ces deux-là, mais le restaurant ne tiendra pas le coup. Fait qu'ils ont beau faire de l'argent, s'ils ne tiennent pas le coup, eux autres, ça ne fonctionnera pas. Fait que c'est beaucoup de temps et de sensibilité à avoir dans une affaire comme ça.
Mais cette émission-là, là, Aide demandée, ça arrive dans un contexte là qui est encore plus compliqué avec la pandémie, c'est-à-dire des restos qui ont dû fermer, rouvrir, être en mode take-out, puis après ça, retour salle à manger, puis tu sais, vraiment la période yo-yo. Il y en a beaucoup qui n'ont pas résisté. Les gens que tu accompagnes ont l'air, en tout cas à première vue, là, je parle de ceux de la saison précédente, à avoir survécu.
Ben, ils ont survécu saison 1, effectivement. Puis je te dirais que saison 2, ont survécu aussi parce que on l'a vécu hors pandémie. Il y a eu un blocage, là, mettons, en décembre cette année, mais là, ils reprennent déjà. Puis on apprend à gérer la pandémie. Tu sais, puis c'est un peu ça qu'il faut aussi s'ouvrir les yeux parce que on fait de la restauration différemment à partir de maintenant. On va puis c'est tous ces restaurateurs-là puis plein d'autres vont avoir des séquelles qui sont négatives mais aussi positives. Tu sais, on va apprendre à gérer des, tu sais, les, mettons les Mexicains, le tacos, eux autres, ils se sont rendus compte que leur take-out était plus payant. Puis ils ont capitalisé là-dessus. Ils se sont mis à faire beaucoup plus de pour emporter. Même si c'est plus excitant d'avoir des clients dans le restaurant, eux autres, le business est meilleur pour emporter. Puis ils restent comme ça, puis ils continuent de faire un modèle comme ça parce que c'est ce qui est bon pour eux. Ils font moins d'heures d'ouverture, un petit peu moins d'argent, mais quasiment plus de profit. Fait que c'est comme une équation intéressante à regarder. Fait que la pandémie a quand même du bon à certains égards pour des restaurateurs qui s'y attardent correctement.
Mais j'aimerais t'entendre, un, sur le retour avec souvent des problèmes de gestion de personnel, donc de pénurie de main-d'œuvre, du coût des aliments, puis des, appelons ça, tous les coûts là, reliés à la restauration qui augmentent. Tu sais, je regarde des fois les factures, puis je comprends là, le prix parce que le propriétaire, le steak coûte plus cher, puis les bon. Ça va être dur quand même pour beaucoup. T'sais, les gens, là, ils n'ont pas un budget élastique tant que ça pour aller au restaurant.
Ben, on peut pas toujours refiler la facture au client, effectivement. Fait que ça devient très difficile. T'sais, le coût de matière première, on peut aussi cuisiner en conséquence. Il y a des façons de cuisiner avec des aliments qui sont moins dispendieux, des pièces moins nobles. T'sais, on peut partir là-dedans. Mais après ça, la pandémie a fait qu'il y a la pénurie de main-d'œuvre qui est généralisée, là, qui n'est pas juste à la restauration. Fait que c'est sûr qu'il faut être excessivement créatif au niveau opérationnel pour arriver à gérer une business ou un restaurant d'une façon où la rentabilité est encore au rendez-vous, puis c'est possible. Faut juste, tu sais, en restauration, puis je l'ai fait dans Aide demandée, on calcule pas tant que ça. Tu sais, on s'arrête pas pour les food costs sont à combien dans mon restaurant. T'as beau le dire que tu le fais, mais il n'y a pas grand monde, je me rends compte en faisant ça, qu'ils le font. Tu sais, s'arrêter de dire, OK, c'est quoi mon réel coût de nourriture, mon réel coût de main-d'œuvre, puis tu vas avoir des profits à la fin, mais à quelle échelle? Puis quand tu commences à t'arrêter, puis pas le faire dans le plus grand des détails, mais arrêter puis le calculer, tu sais, minimalement, ça fait un impact financier qui est énorme. Puis je pense que ça, ça donne une chance à plein de restaurateurs de s'arrêter, puis finalement de revoir leur modèle avec post-pandémie, je veux dire, là. Puis ça peut être rentable.
Ben, tu sais, je prends l'exemple de ta pâtissière qui perdait beaucoup de temps, là, puis qui perdait en même temps des occasions d'affaires. Là. Tu as donné quelques bons conseils, disons, pour maximiser ses revenus.
Mais elle, c'est l'exemple parfait. Quelqu'un qui a pas de métier, elle n'est pas, elle pâtissière dans le sens où c'est ce qu'elle fait dans la vie aujourd'hui, mais elle n'a pas de formation. Fait que dans son cas, elle, c'était de devenir de l'encadrer au niveau technique pour qu'elle produise correctement. Fait que j'ai rentré des intervenants qui sont venus aussi l'aider. Moi, je suis pas pâtissier, j'ai pas la prétention de l'être. Fait que je rentre des gens meilleurs que moi là-dedans. pour aider correctement.
Louis-François, c'est super intéressant. Merci d'avoir été là.
Merci d'avoir pris le temps. Bonne journée.
Salut. À toi aussi. Louis-François Marcotte. Et vous pouvez regarder ça à partir de la semaine prochaine, mardi 8 février, Véro.tv, d'ici, tout.tv extra. Puis c'est vraiment, là, vraiment différents types de proprios, de restaurants, puis comme je disais, de la cantine au restaurant avec plusieurs services.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine. L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Maintenant, les îles de la Madeleine ont décidé de s'attaquer à l'hébergement touristique de courte durée. Donc, on sait que l'industrie touristique, c'est majeur. Mais en même temps, crise de logement, spéculation immobilière. Le maire des îles est avec nous, Jonathan Lapierre. Monsieur Lapierre, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Ça veut dire quoi, ça, s'attaquer à l'hébergement touristique de courte durée? Qu'est-ce que vous faites précisément?
En fait, je dirais qu'on s'attaque plus à l'hébergement de courte durée qu'à l'hébergement touristique. Parce qu'on ne s'attaque pas, évidemment, à l'industrie touristique, qui est une industrie de premier plan dans la communauté des îles de la Madeleine, avec plus de 90 millions de retombées économiques par année. Le défi auquel on est confronté actuellement, c'est le manque de logements disponibles à l'année et la surenchère qui est impactée sur la surenchère qui existe déjà, parce que les gens qui achètent des propriétés, des maisons unifamiliales, savent qu'ils peuvent en tirer un revenu de 15, de 20, de 25 000 $ par année. Donc, le portrait de la situation, on a des gens qui viennent des îles ou des gens qui viennent d'ailleurs au Québec, qui se pointent aux îles, qui voient des belles maisons en vente sur le bord de la mer avec une vue 360 ou presque sur l'océan. Et la maison, bon, un exemple, le prix de vente est autour de 300 000, 350 000. Et là, ils se disent, écoutez, soit que je jette un chalet sur le bord d'un lac tout tassé qui va me coûter trois quarts de million ou un million, ou j'ai un terrain de 100 000 pieds carrés aux îles de la Madeleine, belle petite maison coquette, 300-350 000 $. Donc, la question se pose presque pas. Et là, il y a une surenchère. Et là, on se dit, en plus, il faut être capable d'aller chercher un revenu important. Donc, ça ne me dérange pas de payer 400, 450, 500, 550. Donc, pour ceux et celles qui habitent aux îles à l'année, pour les travailleurs et travailleuses qu'on attire aux îles pour combler le manque d'employés qu'on a pour combler les 1500 emplois disponibles, ben ça devient extrêmement rare de se loger puisqu'il y a peu de maisons sur le marché, des maisons unifamiliales en vente. Et s'il y en a, ils se retrouvent dans le marché de la location court terme.
Okay, mais...
Et il y a peu de logements locatifs à l'année.
OK, deux, trois choses. Je vais vous présenter un scénario un peu différent de ce que vous venez de me dire. Là. Je vous donne le cas parce que y a des gens qui nous ont parlé. Là. Un monsieur qui a acheté une maison aux îles au mois de juin. La maison est à vendre depuis un an. Il a investi, puis c'était pas un palace. Là. C'est une maison qui a besoin d'amour puis d'être retapée. Il a mis de l'argent pour rénover cette maison-là. Et jamais il a entendu parler jusqu'à tout récemment là, de cette interdiction de louer pour des séjours inférieurs à 31 jours. En fait, les îles, vous avez donné le permis de rénovation. Puis bon, est-ce que ça n'aurait pas été plus correct pour les acheteurs de ces maisons-là de le savoir longtemps d'avance? Ils n'auraient peut-être pas acheté dans un tel contexte.
En fait, ces acheteurs-là, ce qui n'est pas correct, c'est s'ils avaient une intention déjà de faire commerce avec leur propriété secondaire, première chose qu'on fait partout au Québec, c'est de s'asseoir avec la ville et dire, moi j'ai une intention d'acheter, de rénover, qu'est-ce que je peux faire? Et vous savez, au Québec, pour faire commerce avec une propriété, ça prend un permis de la CITQ, qui lui, la CITQ valide la conformité du zonage et des règlements auprès de la ville, et la ville ensuite émet un permis pour que la personne puisse faire commerce. Le problème qu'on vit aux îles, et j'imagine un peu partout au Québec, c'est qu'on a des gens qui achètent une maison secondaire, qui n'ont pas tout à fait les moyens de l'acheter, et pour combler un manque à gagner financier, ont besoin de la louer. Ça, comme humain, comme personne...
Bien là, M. Lapierre, c'est toujours bien pas interdit de m'acheter une maison puis de faire
ce que... Non, absolument pas. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est tout simplement valider la mise en conformité avec la ville, au même titre que moi, si je jette un condo dans une tour à condo, je peux pas le louer, le condo. Donc, il faut que je m'informe des règles de la tour à condo. Il faut dans la copropriété avec le syndicat de copropriété. C'est la même chose au niveau des règlements. Même chose à Montréal, même chose à Québec. Donc, nous, on ne dit pas que les gens peuvent pas faire ce qu'ils veulent à l'intérieur des quatre murs de la maison. On se mêle pas non plus des finances des gens, loin de là. Nous, ce qu'on dit, par contre, c'est qu'à partir du moment qu'on veut faire un commerce avec une maison, mais il faut s'informer si on peut, si on est dans le bon zonage, par exemple, s'il y a des conditions particulières ou s'il y a des permis qu'il faut aller chercher. Et c'est là le problème. Maintenant, tous ceux et celles qui le faisaient avant l'adoption du règlement, donc tous ceux et celles qui avaient un permis qui le faisaient en toute légalité, eux ont un droit acquis, donc ils sont reconnus et pourront continuer d'ailleurs d'opérer de la même façon qu'ils le faisaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un permis,
okay, mais...
parce qu'eux avaient fait les bonnes démarches.
Là, je comprends, mais des gens qui achètent de bonne foi, qui rénovent et qui, après ça, décident... C'est quand même pas des criminels, là, je veux dire, ils ont décidé d'investir comme ça. Là, vous me dites qu'ils auraient dû le savoir. Moi, je vous dis, vous auriez peut-être pu leur dire.
Non, mais écoutez, il n'y a personne ici qui parle de criminels. Il ne faut pas exagérer non plus. Là. On ne fait pas une chasse, il n'y a pas de police qui va courir après eux. Ce qu'on dit, c'est qu'au Québec, en matière d'habitation, les gens doivent se présenter à leur ville. C'est pas exclusif aux Îles-de-la-Madeleine.
Non.
Faut que toute personne se présente à une ville et s'informe. Qu'est-ce que je peux faire ou pas? C'est pour ça qu'il y a des schémas d'aménagement. C'est pour ça qu'il y a des zonages.
Ça, je comprends
parce
tout ça, là.
On peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Donc, les gens qui... Alors, nous, on peut pas prétendre à l'avance...
Vous avez annoncé ça quand, ce projet-là? Vous avez annoncé ça quand?
En fait, l'automne dernier.
OK. Fait que des gens qui ont acheté le printemps dernier, eux autres, ils l'ont eu sa gueule en prenant ça cet automne.
Ah ben autant que nous qu'on ne savait pas que c'est ça que c'était ça leur projet, M. Arca. Une ville ne peut pas prétendre sans parler à ses citoyens qu'est-ce qu'elle va faire.
Okay, donc mais, nous, moi, M. Lapierre, je reconnais le droit de faire ce schéma-là, puis c'est important que les municipalités le fassent.
Ah oui, évidemment.
C'est aucun problème avec ça. Moi, je questionne un peu le délai, la période d'avis.
Mais non, mais écoutez, M. Arca, un conseil municipal est autonome et souverain.
C'est vrai.
Donc, aujourd'hui...
Il peut respecter ses concitoyens, pas. Par exemple. C'est pas interdit.
Ah, ben, mon Dieu. Mais c'est sûr qu'on les respecte. On les respecte au plus haut point. C'est pour ça qu'on a annoncé ça l'automne dernier et que le règlement n'est pas encore adopté aujourd'hui.
Il va l'être la semaine prochaine.
Il y a un délai. Il n'a même pas. La semaine prochaine, c'est simplement la deuxième étape. Donc, le deuxième projet de règlement. Il n'y a pas de règlement qui est encore en vigueur. Donc, il n'y a pas de règlement qui va être en vigueur avant le printemps prochain. Okay. Mais vous savez, le conseil s'est réveillé un matin, a discuté avec sa population locale. La population locale a demandé haut et fort que le conseil intervienne en matière de location à court terme. C'est exactement ce que le conseil a fait.
Est-ce que ça veut dire... Est-ce que ça veut dire avec ça que ça gèle en quelque sorte l'offre de location touristique pour les îles?
En fait, oui et non. Parce que le règlement, ce qu'il propose, il n'interdit pas complètement la conversion de maison unifamiliale en résidence de touristes. Il propose des zones où est-ce que ça sera permis. Donc, on vient encadrer, on vient limiter, encadrer, mais on ne vient pas complètement interdire. Et actuellement, il y a plus de 300 résidences de touristes qui sont autorisées, qui ont un permis de la CITQ, qu'ils possédaient avant l'adoption du règlement et qu'ils possèdent encore après l'adoption du règlement. Et évidemment, la ville, avec ses citoyens, avec le schéma d'aménagement, va suivre l'évolution de la demande pour soit agrandir les zones villégiateuses qui vont permettre cet usage-là, ou créer tout simplement des nouvelles zones. Parce que nous, ce qu'on doit éviter, parce que le territoire, il est limité, il est exigu, donc on doit éviter que les gens se mettent à construire des maisons dans les zones forestières, couverts forestiers qu'il faut protéger. Il est hyper important ici parce qu'il maintient notre nappe phréatique. Les zones agricoles qu'il faut protéger aussi. Puis l'étalement, évidemment, parce que l'étalement, c'est vrai. En ville, c'est vrai ici aussi.
OK. Là, comme on dit, la spéculation immobilière ou la flambée des prix, c'est pas propre aux îles. Là, on le voit partout au Québec.
Tout, ouais.
Mais la question peut-être bête que je vais vous poser, est-ce que vous croyez que les gens qui se cherchent un logement vont avoir les moyens de s'acheter la maison que la personne voulait convertir, par exemple, pour de la location touristique? Autrement dit, là, est-ce que ça va être égal à égal? Ils feront pas de trucs touristiques. C'est sûr que ça va être un citoyen des îles qui cherche un logement qui va l'avoir.
Ah ben c'est ça, on n'a aucune garantie. Ce qu'on vient faire là.
Ça se peut-tu que ça soit trop cher pour les salaires payés aux îles?
Non. Vous savez, le salaire moyen par personne ici est plus élevé que la moyenne du Québec. Donc, ça n'a rien à voir avec le salaire. Ce que ça a à voir, par contre, c'est que forcément, s'il y a moins de maisons converties en commerce, pour faire du commerce, il va y avoir plus de maisons disponibles sur le marché, soit pour l'achat, soit pour la location. Donc, il y a les deux volets. Maintenant, celui qui loue une maison à l'année va payer un montant XY par mois, alors que le visiteur, celui qui vient de façon temporaire, paye souvent le même montant, mais par semaine. Mmh. Donc, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans les mêmes eaux. Ce qu'on veut favoriser, là, c'est des propriétaires de maisons secondaires ou unifamiliales qui vont favoriser la location annuelle plutôt que la location temporaire. Parce qu'il en va, du tissu social et économique des îles, parce qu'il manque 1500 employés, il y a 1500 emplois disponibles, c'est des commerces de détail, c'est des institutions, c'est des industries qui ont un manque flagrant d'employés. Et évidemment, personne ne peut s'en venir aux îles s'il n'y a pas un toit sur la tête.
C'est
Lapierre, à ça qu'on s'attaque.
Merci, bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir. Jonathan Lapierre est le maire des îles. L'idée, c'est pas de contester le schéma. Au contraire, il faut que les villes fassent ça. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté de bonne foi le printemps dernier puis qui ont investi leurs épargnes. Puis là, bon, est-ce qu'ils auraient dû le demander? Est-ce que le projet est arrivé cet automne? Fait que c'est sûr que tu fais le saut un peu quand tu te prépares puis que tu as déjà dépensé pour des travaux de rénovation.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
C'est 23.